et ça correspondait. En fait, la peste justinienne s'était développée là où il y avait des rats. Quand elle revient et qu'elle balaye toute l'Europe en 5 ans, il y a du rat partout.
Ainsi, ce serait lui, le responsable de la peste noire, notre rat des champs, Rattus rattus. Non, le responsable de la peste, c'est sa puce. C'est lorsque tous les rats sont morts que la puce, affamée et contagieuse, s'attaque aux êtres humains. Il reste tout de même une question. Pourquoi la puce du rat? Parmi les 2500 espèces de puces, la puce du rat présente une petite singularité que seuls les microscopes électroniques ont pu révéler. Ici, à cet endroit qu'on appelle le proventricule, une série de petites épines filtre le sang dont se nourrit la puce. Alors que chez la plupart des espèces, les microbes traversent le corps de l'insecte avec le sang, chez la puce du rat, les bacilles s'accumulent dans ces épines et forment un bouchon.
Donc ensuite, quand elle va piquer un homme, elle pompe son sang sain. Le sang arrive, se bloque contre le bouchon bacillaire où il se souille de bacilles. La puce ne peut pas avaler le sang et le régurgite, vomit, dans le point d'inoculation, par sa trompe, comme une seringue, empoisonnée.
Voilà, les responsables de la peste ne sont pas les étoiles. Ce n'est pas Dieu, ni un quelconque bouc émissaire, ni même les rats, ni même la puce. Non, les responsables de la propagation de la peste, ce sont ces épines de quelques millièmes de millimètres d'épaisseur. Ce sont elles qui, au milieu du XIVe siècle, à partir des premiers foyers infectieux d'Asie centrale, ont permis aux microbes de voyager de puce en rat et de rat en homme. L'histoire de la propagation de la peste, c'est une histoire commerciale. Ça, on en est certain. On est certain, et on le comprend mieux aujourd'hui depuis que l'on a incriminé la puce du rat comme vecteur, parce que la puce du rat, eh bien, elle se loge dans les tissus et donc elle va suivre les ballots des marchands. Elle va être, évidemment, les rats sont dans les cales des navires. Donc, les routes de la peste dessinent très exactement les lignes de force du commerce international.
Depuis la basse vallée de la Volga, les sources russes, byzantines et arabes permettent de suivre, mois par mois, l'avancée de l'épidémie. Depuis l'embouchure du Don et les ports de Crimée, la dissémination suit l'itinéraire des navires génois. Constantinople, Messine, Marseille. Grâce au progrès de l'archéologie funéraire et de la biologie moléculaire, on peut donc repérer les routes de la peste. Ce sont les lignes de force du grand commerce eurasiatique, sillonnées de routes terrestres, fluviales et maritimes. Voilà l'Europe de la peste. Seules quelques zones ont été épargnées, celles restées à l'écart des échanges. L'Islande, la Scandinavie, une partie du monde slave. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le Maghreb, comme l'ensemble du bassin méditerranéen, a été décimé. De l'Inde, on pense aujourd'hui qu'elle fut plutôt épargnée. De l'Afrique subsaharienne, on ne sait rien. Quant à l'Amérique, elle n'existe évidemment pas pour l'Européen du XIVe siècle. Une grande partie de l'Asie et du Proche-Orient a été atteinte. Nous savons que la Chine a été touchée, mais nous ne savons pas avec quelle gravité. Une information, en tout cas, émerge de la carte. La toile de fond de l'épidémie de peste est l'espace interconnecté par l'Empire mongol fondé par Genghis Khan au XIIIe siècle. Ou plutôt, par ce qu'il en reste, avec ses deux principales branches héritières. D'un côté, la Chine de la dynastie Yuan, et de l'autre, en Asie centrale, l'Empire turco-mongol, issu du fils aîné de Genghis Khan, qu'on appelle la Horde d'or. Après le passage de la peste, La seconde moitié du XIVe siècle verra s'effondrer le règne de la Horde d'Or, ainsi que la disparition des Yuan au profit de la dynastie Ming.
En Asie centrale, comme en Chine, il est fort probable que la peste fasse rupture. En tout cas, elle est contemporaine d'une rupture politique. Ce qui est frappant pour les historiens de l'Europe, c'est que on peut faire un tableau apocalyptique de la peste, mais fondamentalement, elle ne change rien. C'est comme si ce monde qui a été terrorisé par la peste, eh bien, d'une certaine manière, ne doutait pas de lui-même et repartait, je ne veux pas dire comme si de rien n'était, mais en tout cas sur les mêmes bases.
Pour comprendre ce qui fait la solidité de ces bases, il faut sans doute venir ici. Ici, c'est-à-dire à Avignon, dans la capitale de la chrétienté depuis que les papes s'y installèrent au début du XIVe siècle. Là est la matrice d'un État puissant et centralisé. L'épaisseur des murs nous dit la solidité d'un pouvoir qui s'affirme. À partir de 1348, on meurt en masse à Avignon, car la concentration de la curie favorise la contagion. Le pape Clément VI tente de faire face. À lire ses sermons, on comprend qu'il sait que la mort peut surgir à tout moment. Et pourtant, le chantier d'agrandissement du palais qu'il a entrepris dès 1342 ne faiblit pas. La bureaucratie pontificale continue à tourner à plein régime, ne serait-ce que pour répondre aux suppliques qui affluent depuis l'ensemble de la chrétienté pour remplacer les charges ecclésiastiques laissées vacantes par la mort de leurs bénéficiaires. Avignon est la véritable capitale du monde chrétien. Capitale spirituelle, mais surtout capitale administrative et culturelle. À la cour de Clément VI se retrouvent les grandes figures de l'époque, le médecin Guy de Chauliac, Pétrarque, le poète, et Matteo Giovannetti, qui peint les fresques des chapelles du palais. Ces images précèdent de quelques mois le passage de l'épidémie. Avec leur diable, leur scène de terreur et d'expiation, elle nous rappelle que les croyants du XIVe siècle se savaient en sursis, dans un monde où la souffrance était déjà une compagne familière. Nous pouvons comprendre alors comment la peste va s'emparer d'une figure qui est déjà là, peinte pour la première fois au Campo Santo de Pise durant les années 1330, 15 ans avant l'épidémie. La grande faucheuse. Lorsque la peste surgit, la faucheuse devient l'incarnation de la mort et trouve sa monture dans les siècles suivants. Inspirée des trois triomphes de Pétrarque, elle est debout sur un char à bœufs, écrasant les corps sur son passage. Puis, comme échappée des quatre cavaliers de l'Apocalypse, elle enfourche un cheval famélique. Ces spectres terrifiants rôdent dans les peintures et les enluminures à partir du XVe siècle et imposent la présence fantomatique de cet événement historique de longue durée qu'est la peste. Elle hante désormais l'histoire de l'art et notre imaginaire. Et notre regard contemporain ne pourra pas s'empêcher de trouver dans ce triomphe de la mort peint à Palerme en 1445 la préfiguration de Guernica que Picasso a peint en 1937 pendant la guerre d'Espagne.
Au fond, la peste, elle fait date comme pas seulement parce qu'elle est passée, pas seulement parce qu'elle s'est installée en Europe en 1347 et qu'elle y est demeurée jusqu'en 1722, mais parce que son empreinte la plus profonde, c'est évidemment dans l'imaginaire qu'on la trouve. Au fond, toutes les grandes catastrophes vont être comparées à elle, à des pestes modernes. On craint comme la peste telle ou telle catastrophe. C'est donc qu'un imaginaire de la destruction s'est à ce moment-là construit autour de cet événement. Et c'est ça, peut-être, l'événement de la peste. Ce n'est pas tant les conséquences qu'elle a. Finalement, ça ne change pas grand-chose à l'organisation des pouvoirs, à la structure sociale, à l'imaginaire même ou au système de croyances. Non, ça s'installe comme image même de la désolation.